Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 25 avril. On va parler de relations entre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, hein, pas le CO2 mais la pollution des particules fines. On va parler de l'inquiétude de la communauté internationale face à d'éventuels crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. On va parler de l'avenir de Alternatiba qui voit une refondation avec quelques dissensions en interne qui voient la création de nouvelles entités de lutte écologique. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des nouvelles aussi de la production de cava en Espagne qui dégringole à cause de la sécheresse. Et puis on terminera avec une petite histoire de bulles de gaz de chez Perrier qui sentent pas très bon visiblement. Avant ça, quelques nouvelles de la formation, puisque vous l'avez peut-être entendu passer cette info. À partir du 1er mai, pour ce qui est des formations financées par le compte personnel de formation, le fameux CPF, eh bien, un reste à charge sera instauré à partir de ce 1er mai. C'est dans le cadre de la loi de finances 2023 qu'est prévu donc ce reste à charge, c'est-à-dire une partie que la personne souhaitant bénéficier d'une formation devra mettre de sa poche. Donc les personnes qui utilisent leur compte personnel de formation pour financer une action de formation hors des formations prévues par l'employeur, hein, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même d'une manière individuelle, eh bien la loi prévoit que cette participation donc à la formation, à la base, elle devait être soit proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou alors une somme forfaitaire. Donc Bercy, lui, à la base, proposait un pourcentage minimum de 10%. Et bien finalement, c'est un forfait qui risque de se voir infliger, un forfait de 100 euros. À noter quand même que ce montant de 100 euros sera relevé tous les 1er janvier en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation entre les mois de décembre des deux années précédentes. Donc c'est 100 pour commencer, mais ça risque de monter petit à petit. Le décret qui doit préciser les modalités de la mise en œuvre n'est pas encore sorti, mais en tout cas, il a été confirmé. Et les conditions aussi dans lesquelles eh ben, quelqu'un d'autre peut assumer ce reste à charge un tiers, c'est-à-dire ni vous qui souhaitez la formation, ni l'organisme de formation, mais peut-être éventuellement l'employeur ou d'autres organismes. En tout cas, ce n'est pas dit que vous deviez les débourser quand même, mais sur le principe, c'est ce qui est écrit. Alors le projet de décret, il va déjà entrer en vigueur à partir de ce 1er mai, là, donc dans un peu moins d'une semaine, mais des exemptions, je vous le disais, sont prévues. Alors, ces exemptions devraient inclure les demandeurs d'emploi et les situations où l'employeur complète le financement d'une formation. Si, par exemple, les fonds du CPF du salarié sont insuffisants, il faudra donc faire accès à ces 100 euros, mais quand le solde du compte est suffisant, donc si vous avez assez pour vous payer la formation, le projet de décret va aller plus loin que ce qui est prévu dans la loi, ce qu'on peut lire dans les échos. Par exemple, les 13 entités qui sont habilitées à abonder ce fameux compte personnel de formation, à savoir l'entreprise, l'opérateur de compétences OPCO ou les collectivités territoriales, bon, il y a 13 entités possibilités qui peuvent, si elles le décident, prendre à leur charge ces fameux 100 euros. Donc ces 100 euros ne seront peut-être pas dépensés par vous au bout du compte, je ne sais pas si vous avez suivi. En tout cas, voilà, c'est pas encore complètement ficelé, et ça, on le saura plus à partir de ce 1er mai, mais en tout cas, il y aura forcément quelque part 100 euros à sortir en plus de votre compte professionnel formation, ce qui fait, si j'ai bien compris, qu'il vous restera 100 euros sur votre compte, vu que ces 100 euros ne seront pas déduits. Bon, c'est un peu obscur comme histoire, mais on essaiera de démêler ça très vite. À parler pollution avec cette nouvelle qui est un petit peu dérangeante. Une nouvelle de la part des experts scientifiques, jugez-en plutôt. La baisse de la pollution à l'échelle de la planète, la baisse de la pollution atmosphérique, donc les particules fines par exemple, eh bien cette baisse de pollution aggraverait le réchauffement climatique. C'est Mathilde Fontaine qui est rédactrice en chef au magazine scientifique Epsilon, qui confirme dans les colonnes de Nature, de Sciences et Nature, que donc la pollution, entendez bien la particule fine, a baissé globalement dans le monde. Hein. À savoir que depuis les années 90, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur le contrôle de la qualité de l'air. Et donc ça porte ses fruits. Hein. A priori, il y a un petit peu moins de particules en suspension. Mais donc avec cet effet complètement retors, c'est que cet air plus pur aggrave le réchauffement climatique. D'autant plus qu'on est à peine en train de tirer le bilan de l'année 2023, qui a été une année record sur tous les plans. C'était déjà l'année la plus chaude de l'histoire, et a priori c'est prouvé, donc ça serait en partie à cause de la baisse de la pollution. Une série d'études viennent en effet de donner des chiffres à cet effet, et elles montrent que c'est très important comme paramètre. La baisse de la pollution de l'air serait responsable de la moitié de l'accélération actuelle du taux de réchauffement. Cette dernière étude vient d'être publiée ce 3 avril par des chercheurs de l'Institut Cicero, qui est situé en Norvège. Elle se base sur des observations satellites. Et bien cette étude donc, évalue que le 40% de l'augmentation de l'énergie qui a réchauffé la planète entre 2001 et 2019 serait due donc au fait que l'air soit plus pur. En effet, lorsqu'elles sont en suspension dans l'air, les particules de pollution réfléchissent la lumière dans l'espace, elles font un petit peu protection, et elles provoquent donc un refroidissement de la Terre, puisque moins de rayons du soleil touchent la planète. S'il y en a moins, il y a réchauffement, assez logiquement. Les particules, en plus, peuvent aussi augmenter le nombre de gouttelettes présentes dans l'air, donc faire de plus grands nuages qui vont durer plus longtemps. Or, les nuages aussi réfléchissent la lumière. En gros, la Terre polluée est plus réfléchissante, et quand elle n'est pas polluée, elle est plus sombre, et donc elle capte plus la chaleur du Soleil. Ces phénomènes sont connus depuis bien longtemps, hein, mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est l'importance de l'effet et sa complexité. Savoir qu'il est quand même très difficile de prédire précisément comment cela va évoluer. Les chercheurs voient que ces mécanismes ont un impact sur la température globale, mais aussi sur la circulation atmosphérique, les vents et les moussons. Alors bien sûr, l'idée avec cette nouvelle, c'est pas d'arrêter de dépolluer. Hein. On voit déjà aussi sortir toutes les théories qui vont ressortir du chapeau sur les fameuses expériences qu'on mènerait dans l'atmosphère. Effectivement, dans la géo-ingénierie, c'est des solutions qui sont étudiées et qui ont été mises sur le tapis depuis un bon moment, notamment, je crois, des particules d'argent, des choses comme ça, pour refléter les rayons soleil vers l'extérieur. Enfin bon, commencer à couper la Terre des rayons solaires, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. En tout cas, les plantes, elles, en ont besoin. Mais vous l'aurez compris, on parle donc de pollution et non pas de CO2, qui est lui un gaz à effet de serre, mais qui n'est pas considéré comme un polluant. Hein. C'est un gaz issu des cycles biologiques normaux. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, d'arrêter de dépolluer, mais par contre de continuer à décarboner l'économie. Les experts insistent sur ce point. On ne va pas choisir entre la peste et le choléra. À savoir quand même que la mauvaise qualité de l'air provoque chaque année plus de 4 millions de décès prématurés sur la planète. Mais donc il faut tenir compte des effets de cette baisse de pollution. Eux préconisent de coupler toujours les mesures anti-pollution à des mesures de réduction des gaz à effet de serre. Et en continuant le suivi par satellite, en ajoutant ce sujet aux discussions internationales, puisque jusque-là, les aérosols, donc tous ces gaz qui restent en suspension dans l'air, ne faisaient pas partie des sujets abordés lors des COP. Presque aucun pays ne les mentionne dans ses engagements officiels pour l'accord de Paris. On a tout mis sur le CO2, mais pour tout ce qui est pollution fine, justement, c'est complètement découplé et il serait peut-être temps justement de regarder le phénomène dans sa globalité. J'ai lu dans les colonnes de Libération ce matin aussi que la communauté internationale s'inquiète d'éventuels crimes de guerre qui seraient commis dans la bande de Gaza, En effet, des informations inquiétantes, ce sont les mots utilisés, continuent d'émerger sur des charniers découverts dans l'enclave de Gaza dans laquelle des victimes palestiniennes auraient été retrouvées nues et les mains liées. C'est un communiqué de l'ONU qui a été publié avant-hier et qui fait état de ces découvertes. Cette déclaration fait suite donc en effet à la mise à jour par la défense civile de Gaza le 20 avril de près de 300 corps On était dans l'enceinte de l'hôpital Nasser à Khan Younes. L'armée israélienne s'est retirée de cette ville qui est située dans le sud du territoire le 7 avril dernier pour préparer de futures opérations et elle a donc laissé derrière elle des destructions massives. Parmi les victimes retrouvées dans ces charniers se trouveraient des personnes âgées, des femmes et des blessés, tandis que d'autres ont été retrouvés attachés avec les mains ligotées et déshabillés, précisait la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani. Selon les autorités sanitaires locales, une trentaine de Palestiniens auraient également été enterrés dans deux fosses dans la cour de l'hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza. C'est le plus grand établissement médical de cette enclave, qui a été assiégé, vous vous en rappelez, du 18 mars au 1er avril par l'armée israélienne. L'ONU a par ailleurs indiqué que le chiffre avancé par l'armée israélienne de ces 200 personnes qu'elle avait tuées lors de cet assaut pouvait être sous-estimé. Israël, de son côté, a nié être à l'origine de ces fosses communes, affirmant n'avoir inhumé aucun corps, mais examiné des cadavres déjà enterrés par leurs proches pour vérifier qu'ils ne soient pas des otages israéliens. Ces informations sont très difficiles à vérifier, en raison notamment du blocus de l'information qui est imposé par Israël dans la bande de Gaza, mais elles ont entraîné de nombreuses inquiétudes de la part de la communauté internationale. L'ONU a ainsi réclamé ce mardi une enquête internationale sur ces charniers, en soulignant la nécessité d'une enquête indépendante et transparente face au climat d'impunité actuel. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est lui dit horrifié par la destruction de ces hôpitaux et par la découverte des fosses communes à proximité de ces lieux. Les hôpitaux ont droit à une protection très spéciale en vertu du droit humanitaire international, a-t-il rappelé. Tuer intentionnellement des civils, des détenus et d'autres personnes considérées hors de combat est un crime de guerre. Et je vous rappelle que ces hôpitaux avaient aussi été assiégés car ils étaient suspectés d'accueillir des terroristes qui œuvraient pour la mission humanitaire de l'ONU. Et aussi, là aussi, une mission d'enquête de l'ONU a conclu qu'il n'y avait peu de chance, en tout cas aucune preuve que des terroristes s'étaient infiltrés dans les rangs de cette organisation internationale, comme le soutenait justement Israël. En tout cas, le lendemain de cette découverte, l'Union européenne a aussi appelé de son côté à une enquête indépendante. C'est quelque chose qui nous contraint à réclamer une enquête sur tous les soupçons et circonstances de cette découverte, parce que cela crée l'impression qu'il pourrait y avoir des violations des droits humains, déclarait un porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne, il s'appelle Peter Stano. Les hôpitaux de la bande de Gaza ont été donc visés très durement durant cette opération militaire que mène l'armée israélienne dans le territoire palestinien en représailles à l'attaque meurtrière perpétrée le 7 octobre par des terroristes du Hamas venus de Gaza. Selon Israël, le mouvement islamiste palestinien a utilisé les hôpitaux afin de mener des attaques cachées des tunnels et des armes, ce que dément de son côté le Hamas. On revient en France du côté justement des militants de la lutte écologiste avec du remous du côté d'Alternatiba. Ce sont les groupes locaux de cette organisation, donc les groupes de Paris, de Lyon et de Montpellier, qui viennent de quitter leur organisation initiale pour créer un nouveau groupe qui s'appelle Action Justice Climat, AJC. Ce sont les initiales de ce nouvel organisme. Donc l'idée de Action Justice Climat, c'est de lier plus étroitement donc l'écologie, la lutte sociale et le combat contre l'extrême droite. C'est donc officiellement un divorce à l'amiable qui est relaté dans les colonnes de reporters. Une scission politique qui témoigne de l'évolution du mouvement climat. Ce 25 avril, Alternatiba Paris devient donc AJC, Action Justice Climat. Un nouveau nom pour de nouvelles orientations axées autour de trois piliers. L'écologie populaire, les alliances avec les syndicats et autres organisations, donc pour ce qui est de la lutte sociale et la lutte contre l'extrême droite. Léa Gindreau, 29 ans, qui est porte-parole du groupe parisien, explique « Cela fait plusieurs années que nous avions des dissensus au sein d'Alternatiba et nous n'avions pas forcément trouvé de place pour les exprimer. Cela s'est accéléré avec la réforme des retraites. Alternatiba Paris s'est tout de suite engagée sur le sujet. On n'investissait plus les mêmes espaces et nous n'avions plus les mêmes stratégies. » Que donc la maison mère, le réseau Alternatiba, qui a lui été lancé en 2013, avec aujourd'hui 113 groupes locaux qui sont coordonnés par une équipe nationale. Mais chaque entité locale possède une certaine autonomie dans le choix de ses actions. Malgré cela, certains sujets ont donc créé des tensions, notamment sur les enjeux de gouvernance interne. Ça a été d'ailleurs l'un des points sur lesquels on n'a pas forcément pu débattre, explique cette militante Léa. Quand la gouvernance n'évolue pas, alors qu'on est beaucoup plus nombreux qu'avant, tout le monde n'arrive pas à trouver sa place. Aujourd'hui, donc, Alternatiba Paris veut tourner la page. Cette nouvelle membre de AJC explique qu'une étude montre que 85% de la population française s'inquiète aujourd'hui du réchauffement climatique. On a gagné cette bataille culturelle, dit-elle, donc en mettant le sujet du climat à l'agenda, grâce aux mobilisations de masse de l'année 2018 notamment. Il faut désormais parler d'urgence climatique en l'alliant à l'urgence sociale. Il est rappelé que le slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat » qu'on a vu beaucoup pendant les manifestations des Gilets jaunes est plus que jamais d'actualité. Paris s'était également allié au Front de Mer, MERES, pour ouvrir la maison de l'écologie populaire de Verdragon. Il s'était également allié avec les raffineurs de Grand Puy en 2021, donc autant de luttes sociales de terrain. Et l'an passé, expliquait encore cet article, ils étaient de toutes les manifestations contre la réforme des retraites. On veut continuer d'affirmer cette ligne-là dans tous les projets qu'on va mener en donnant la parole aux premiers concernés, explique un autre militant qui fait donc partie maintenant de Action Justice Climat. Et d'ailleurs, Paris n'est pas la seule ville à quitter la maison mère, je vous le disais. Lyon et Montpellier aussi s'inscrivent dans la même dynamique. À Lyon notamment, puisque c'était une ville qui est gangrénée par l'extrême droite et donc où justement ces groupes se sont fait fort de lutter contre la récupération politique, notamment de l'écologie, par ces mouvements d'extrême droite. Alternatiba Lyon s'est ainsi allié à d'autres acteurs pour cette stratégie. Ils font partie de l'interorganisation « Fermons les locaux fascistes », qui réunit des syndicats, des associations et des collectifs antifa. On fait aussi des tractages de la sensibilisation et du plaidoyer, explique cette fois-ci Justine, donc qui fait partie du nouveau collectif du côté de Lyon. Et c'est cette stratégie d'alliance justement avec d'autres collectifs politiques qui est un pilier de ce nouveau collectif Action Justice Climat. Il y a besoin de créer des coalitions ponctuelles sur certains sujets pour faire avancer la bataille culturelle, explique Léa, qui est donc sur Paris. Dernier exemple en date, pour elle, les actions qui ont été menées avec urgence Palestine. Car, dit-elle, il n'y a pas eu de positionnement public de la part du réseau Alternatiba National sur ce qui se passe en ce moment à Gaza. Peut-être que ce n'est pas un sujet sur lequel ils estiment avoir quelque chose à dire, poursuit-elle. Un autre sujet que le nouveau collectif souhaitera prioriser, c'est le militantisme soutenable. Entendez-la, de pouvoir durer dans la lutte afin d'éviter de reproduire des logiques de burn-out militant. Cette rupture ne s'est pas faite sans douleur. Une médiation a dû être menée entre les Parisiens et le réseau national, dont les bureaux sont eux décentralisés. Mais officiellement donc, c'est fait et aucune animosité ne reste entre le nouveau groupe Action Justice Climat, AJC donc, et son ancienne maison mère. Pour ce qui est de l'équipe historique, donc le réseau Alternatiba National, c'est l'enjeu de la massification qui reste essentiel pour eux. Nous ne pouvons pas avoir une vision uniquement sur les grandes villes où ces groupes locaux ont réussi à mobiliser. Dans les territoires ruraux, il y a moins de gens mobilisés sur le climat, rappelle son porte-parole. Et quant à la question de la montée de l'extrême droite, le sujet nous préoccupe, mais ce n'est pas notre ADN central. Ça, c'est Gaspard Tamani donc, qui s'exprime pour le réseau national Alternatiba. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, toutes les forces de ce réseau national sont concentrées sur la préparation du Tour Alternatiba à vélo. Ce projet qui existe depuis 2015, qui consiste à parcourir la France à vélo en s'arrêtant dans des villes. Près de 100 étapes sont déjà validées aujourd'hui. Beaucoup de nouvelles personnes nous rejoignent à cette occasion, d'ailleurs, se réjouit le porte-parole. Et à la suite de ce tour, il espère peut-être que de nouveaux groupes Alternatiba naîtront donc à Paris et à Lyon pour remplacer ceux qui ont choisi de prendre leur indépendance. Un groupe, lui, pour le coup, à Montpellier, se maintient déjà et continuera donc la lutte. Vous pourrez retrouver cet article sur les colonnes de reporters ainsi que la carte du tour, justement, Alternatiba à vélo qui va commencer très bientôt. J'ai oublié de noter les dates. Je pense que vous les trouverez assez facilement et normalement, je balançais un petit jingle. Ah, il est là.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on pourrait déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Et le vrai monde, il fait un petit peu peur. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire, un climat de terreur. Ce sont les mots utilisés dans cette tribune qui a été signée notamment justement par Alternatiba, mais par aussi 44 autres organisations. Une tribune qui est parue aussi dans les colonnes de reporters aujourd'hui, entre autres, et qui dénonce un climat de, terreur donc, qui serait entretenu par les partisans de l'autoroute A69, la fameuse autoroute Toulouse-Castres. Les menaces de la part d'élus ou d'associatifs pro-autoroute se multiplient donc contre les opposants à l'A69, et notamment sur leur campement dans les arbres ou les petites ZAD. Plus de 40 organisations, donc on peut citer Greenpeace, Oxfam, Notre Affaire à Tous, Attaque, Extinction Rébellion ou encore La Voix est Libre. Toutes ces organisations ont donc uni leur voix dans une tribune pour dénoncer les violences vécues par les opposants à l'A69. Et d'ailleurs, ils incluent aussi les violences policières. Mais ce n'est pas l'objet donc, de cette tribune. Pour cause, donc, des menaces verbales et des attaques physiques se multiplient dans le Tarn. Depuis, par exemple, une cimenterie voisine, une quinzaine de personnes ont mis le feu au dortoir et caillassé les couchages de la ZAD de la Crème-Arbre. C'était en pleine nuit à la fin du mois de mars. Des propos aussi ont été lancés que les militants écologistes ont entendus dans la bouche de leurs assaillants. Je vous en donne quelques-uns, mais c'est pas joli joli. On va vous rafler un par un. Je vais venir te violer dans ton arbre, salope. Vous ne dormirez plus, c'est la guerre. Voilà le genre de mots qui sortent de la bouche donc de ceux qui cherchent à déloger ces zadistes. D'ailleurs, le maire de Seix, on est dans le Tarn, hein, c'est le village sur lequel s'est installée la ZAD de la Crème-Arbre, le maire a lancé un avertissement avant de potentielles expéditions punitives menées par des gens exaspérés par les occupations, dit-il. « Je sens qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare, je crains qu'il arrive un drame », c'est ce qu'il déclarait à France Bleu. Darmanin, qui ne veut pas de ZAD en France, doit faire détruire celles qui sont ici. Si les autorités n'interviennent pas, on fera nous-mêmes le nettoyage. Ça, c'était dans les colonnes du Figaro qu'on pouvait lire ça ce 19 avril, avec les mots du président de l'association pro-autoroute qui s'appelle Via 81, qui menaçait ouvertement les militants. Voilà, les autrices et auteurs de cette tribune appellent toujours les pouvoirs publics à suspendre les travaux avant qu'un drame ne se produise. Et on termine cette petite page sur justement les luttes écologistes avec Extinction Rébellion qui s'est vue relaxée par la justice pour une action qui a été déclarée nécessaire. Le droit à désobéir progresse, c'est une victoire. Se félicitait donc le groupe Extinction Rébellion. Ce 23 avril, c'était à La Rochelle. Le tribunal a donc retenu l'état de nécessité face à l'urgence climatique pour demander la relaxe de ces 9 activistes qui étaient poursuivis. Ces militants étaient poursuivis précisément pour s'être introduits dans le port de La Rochelle. C'était le 2 septembre 2023, en y posant 2 banderoles avec écrit dessus « L'agro-industrie égale la mort » et « Accaparement de l'eau, ça suffit ». Ils encouraient pour cette petite action pas bien méchante jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 3000 euros d'amende. Le procès s'est tenu le 2 avril dernier. Leur avocat avait donc plaidé cet état de nécessité. C'est un argument juridique qui est régulièrement mis en avant par les militants écologistes, comme par exemple lors du procès des jardins d'Aubervilliers ou celui d'autres activistes anti-glyphosate. Cet argument s'agit de dire que l'action était nécessaire et proportionnée face à un danger irréversible. À La Rochelle, les juges ont donc estimé que cette action des militants était nécessaire.
C'était vraiment très intéressant.
On part en Catalogne où le réchauffement climatique menace très fortement la production de vin pétillant. Des vignerons se retrouvent au chômage technique donc à cause du dérèglement climatique. C'est dans la région viticole du Penedès, on est au sud de Barcelone, et du vin pétillant mousseux sous le nom notamment de Cava y est produit en grosse quantité. La sécheresse fait des ravages dans la région, au point que Freixenet, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un X, Freixenet, ça s'écrit en français, qui est un des principaux producteurs de Cava, et bien se prépare à mettre au chômage partiel l'essentiel de ses effectifs, soit plus de 600 salariés. Un cas de force majeure, c'est ainsi que le plaide le groupe Freixenet, c'est une filiale espagnole du leader mondial des vins pétillants, Henkel Freixenet. La direction de l'entreprise vient donc de déposer auprès du gouvernement de la communauté autonome de Catalogne un plan de suspension temporaire du contrat de travail. Ça pourrait concerner 615 personnes, donc à peu près tous ses effectifs dans cette région du Penedès. Je le dis, c'était la principale zone de production en Espagne du Cava. Le cava, si vous ne le savez pas, c'est un vin pétillant à la robe éclatante élaboré selon la méthode champenoise, un champagne donc à moindre coût. Ce dossier transmis à la Generalitat, c'est donc Le gouvernement local de Catalogne ne précise pas d'ailleurs la durée de ces licenciements qui sont provisoires, mais qui dépendront de l'évolution de la situation dans la région, expliquaient donc les autorités au journal Der Spiegel. Selon Freixenet, la production de cava en Catalogne avait déjà chuté de plus de 45% en raison du manque de pluie. L'année dernière, le volume moyen a donc été divisé par deux et les vignes sont incapables de résister à un tel stress hydrique. On craint que le manque d'eau ne conduise à une campagne d'arrachage, carrément. Cette inquiétude, d'ailleurs, est loin de se limiter aux vignes qui sont exploitées par le géant mondial du vin pétillant, puisque le mois dernier, le Consejo Regulador del Cava, c'est l'organisme professionnel qui veille sur cette appellation, a averti que la sécheresse persistante allait continuer à affecter la production et par conséquent à réduire les stocks disponibles. Et tout ça, bah, ça risque de créer de nouveaux problèmes ou de nouveaux défis hein, quand on a l'esprit d'entreprise. En effet, cette pénurie va fatalement faire monter les prix et obliger donc les producteurs à cibler un nouveau profil d'acheteurs. Toute la question étant de savoir dans quelle mesure la hausse du prix de vente pourra compenser la chute du nombre de bouteilles produites. La demande mondiale de cava, en tout cas visiblement, elle est en plein essor, reconnaît le vice-président du groupe Freixenet. Mais à court terme, dit-il, nous ne pouvons pas produire suffisamment de bouteilles pour la satisfaire et la situation devient vraiment très compliquée à tous les niveaux. En attendant, ce géant allemand, ouais, j'ai oublié de le préciser, c'est un groupe allemand, a annoncé il y a une semaine un chiffre d'affaires record de 1,2 milliard d'euros en hausse de 4,1% sur un an. Voilà, j'espère que ça fera passer la pilule à tous ces viticulteurs qui vont se retrouver au chômage. Ils se réjouiront pour leur ancien employeur. Et puisqu'on est dans les bulles, on y reste, mais cette fois-ci on va dans l'eau gazeuse. Je vous ai déjà parlé des gros problèmes et voire même des scandales qui touchaient toute l'industrie des bouteilles en plastique. Eh bien, plus proche de chez nous, c'est chez Perrier que ça sent le gaz. C'est notamment suite à une communication de Nestlé Waters France, donc la filiale française du leader mondial de l'agroalimentaire Nestlé, qui a une grosse partie du marché de l'embouteillement en plastique. Cette communication a été faite vers l'AFP et elle a jeté un sérieux trouble, c'était hier, mercredi. Alors que le groupe Nestlé Waters est déjà empêtré dans cette obscure filtration des eaux en bouteille, hein, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, eh bien on vient d'apprendre que par précaution, plusieurs lots de bouteilles issues de la source Perrier ont été détruits. La raison, ce sont des bactéries détectées d'origine fécale dans un de ces forages. Et c'est un des forages qui est dans le Gard. Et cette pollution aux bactéries, certainement Escherichia coli, s'est déclarée après les fortes pluies du mois de mars qui ont eu lieu dans notre département. Le même jour, un arrêté préfectoral du 19 avril d'ailleurs a été rendu public qui demandait la suspension d'exploitation sans délai de ce captage d'eau minérale naturelle. Elle s'appelle Romaine. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? 9 ? Non, c'est pas possible ça. Sur la commune de Huchot, on est donc pas loin de Nîmes. Sur plusieurs jours, des germes témoins ont donc confirmé la contamination du forage avec un risque clairement indiqué que malgré les mesures prises par l'exploitant pour identifier et supprimer la source de la pollution, cela n'a pas permis d'obtenir une eau conforme aux normes bactériologiques. Le problème est donc complexe et la préfecture du Gard rappelle que les épisodes de pluie intense de ce type méditerranéen ou épisode cévenol sont amenés à l'avenir à se reproduire fréquemment et probablement de plus en plus fort. Quelles sont donc les solutions ? Eh bien, pour eux, d'abord mener des campagnes complémentaires et plus larges pour identifier précisément la source du problème. Est-ce que c'est juste des stations d'épuration qui débordent ou est-ce que ça lie aussi aux épandages dans les champs, certainement ? Il faudrait aussi mener des expertises sur une période bien plus longue. Les services de la préfecture parlent de contrôle jusqu'à 12 mois. Et ensuite, eh bien, faire appel à un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique avant d'imaginer toute nouvelle autorisation d'exploitation. Donc là aussi, on risque de se retrouver au chômage technique du côté de Vergès et Huchot. En attendant, donc, ces mauvaises nouvelles auront des conséquences économiques pour le groupe Perrier. Pas tout de suite, mais indéniablement dans les prochains mois, si aucune solution n'est trouvée. Et cette marque qui est proche du centenaire quand même aura bien du mal à retrouver du crédit auprès du consommateur avant longtemps, ainsi d'ailleurs que toutes les autres bouteilles du groupe Nestlé Waters. Donc ils étaient déjà étriés pour rajouter des traitements sur ces eaux minérales qui sont censées être naturelles, donc normalement on n'y touche pas, mais ils étaient étriés parce qu'ils faisaient justement de la filtration ou des techniques de purification, visiblement pour tenter de se débarrasser de problèmes de ce type. Mais apparemment, même avec ces techniques qui sont pourtant interdites, eh bien, les pollutions restent dans l'eau. Donc vous l'aurez compris, les bouteilles Perrier, il y en a qui sont rapatriées pour destruction dans les lots. Donc si vous en avez chez vous et qu'il y a une drôle d'odeur quand vous ouvrez le bouchon, eh bien voilà, vous aurez été prévenu.
Oh, les grands bols, tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Allez, j'espère que ça ne vous a pas coupé l'appétit. On se quitte là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien, sortez les caouets. Je crois que ça risque justement de repleuvoir dans le week-end. On est content de ce mois d'avril quand même. Hein.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, bon, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.